Bonjour à chacun ce matin. Je suis heureux d'être avec vous. Ça faisait un moment que le dimanche matin, j'étais pas venu. C'est avec joie que je suis là. Mon épouse aurait aimé être là, mais mes enfants sont malades. Donc pour ceux qui ont des enfants, vous savez ce que c'est. C'est une boucle sans fin depuis 4 mois. Ils chopent tout. C'est comme cela. Vous avez aussi les salutations de l'église d'Avignon. Voilà, qui grandit, où le Seigneur fait vraiment une œuvre. Il y a des guérisons, des personnes qui sont complètement guéries, qui se font même enlever les appareils de leur dos, qui remarchent, enfin, alléluia, merci Seigneur. Personnes qui sont délivrées de l'angoisse. Dieu délivre encore, Dieu restaure encore. Et vraiment, c'est de tout cœur qu'ils sont avec nous ce matin, et nous, nous sommes de tout cœur avec eux. Et on pense bien évidemment à notre frère qui apportera la parole aussi là-bas. Je vais vous inviter à faire une lecture dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 1. Ça sera un texte que nous allons prendre de base pour la méditation de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 10. J'entends les pages qui se tournent, alors j'attends avant de lire. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Voyez-vous, ce matin j'aimerais parler, mes frères et sœurs, de certains pièges que nous pouvons rencontrer. Vous savez, l'ennemi, il a été dit aussi ce matin qu'il est rusé, il est déchaîné, il est là pour détruire, il est là pour essayer de faire son œuvre même au milieu de l'Église. Il y a quand même, et nous devons le reconnaître, des pièges qui sont gros. Il y a des pièges devant nous qui sont gros et nous nous laissons facilement, on fait facilement attention à cela. Mais voyez-vous, il y a aussi des pièges qui sont subtils. Il y a aussi des pièges qui sont même invisibles au sein de l'Église. Et c'est de cela que j'aimerais parler. Vous avez fait attention que Paul est en train d'exhorter son Église, et il est en train d'exhorter les Corinthiens. Il dit, ces choses-là leur sont arrivées pour nous. Sont arrivées pour nous. Et par deux fois, il va insister, comme quoi il y en a une importance. Il dit, oui, mais ces exemples que je cite, il les cite pas pour les citer, mais il les cite en disant, voilà, ce qui s'est passé dans le passé, ça peut aussi arriver maintenant. Et il dira, il ne faut pas qu'il y ait de murmures, et notamment aussi l'idolâtrie que nous allons un petit peu parler ce matin. Voilà, et vous, Paul est en train de dire qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est fait avec le peuple d'Israël. Et avec la génération, ses contemporains qui étaient avec lui à Corinthe, mais également aussi pour nous. Il y a là des similitudes, il y a des points qui se ressemblent. Et c'est important de pouvoir en parler justement. Ne devenez pas un point idolâtre comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voyez-vous, c'est quand même intéressant ce que Paul est en train de dire. Parce que peut-être certains ont reconnu de quel passage il fait référence. Et il fait référence au passage où le peuple s'est rebellé contre Dieu Le peuple s'est rebellé contre Moïse, où ils ont fait le veau d'or. Tout le monde connaît cette histoire. Ils se sont levés, ils ont mangé dans Exode 32, cela vous pourrez le retrouver, où il est dit, voilà, Aaron, fais-nous un veau d'or, on veut un veau d'or, parce que ce Moïse-là, on ne le reconnaît pas, il est plus là, il tarde à venir, il faut faire quelque chose. Aaron a accepté, et ils ont fait ce veau d'or, et juste après, il est dit, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voyez-vous, Paul cite justement ce passage dans Exode 32. Voyez-vous, quand même, et vous relirez la suite, mais le peuple va, Dieu va dire plutôt à Moïse, ce peuple s'est corrompu. Ce peuple s'est corrompu. Et Paul est en train de vouloir éveiller l'église de Corinthe. Il est en train de vouloir dire à l'église de Corinthe, en disant, voyez-vous le veau d'or? Voyez-vous cette histoire? Vous voyez ce passage? Eh bien, ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est aussi ce qui peut se passer aujourd'hui dans l'église. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire quand même que je ne pense pas, à moins que vous en connaissiez une, mais je ne pense pas qu'il y ait d'église aujourd'hui où il y a un veau d'or en plein milieu de l'église, non? Ni même sur l'estrade. Non, vous connaissez pas? Alors qu'est-ce que Paul est en train de vouloir expliquer? Voyez-vous, il parle de l'attitude de cœur. Il parle de la mentalité du peuple de Dieu à ce moment-là. Et il est en train de vouloir éveiller en disant, il faut être prudent, il faut faire attention, parce que nous ne sommes pas meilleurs. Non? Il dira même aux Romains, mais quoi, nous sommes meilleurs? Non, on n'est pas meilleurs. On est greffé sur le même olivier, sur l'olivier franc, sur l'olivier le meilleur. On est greffé, vous n'êtes pas meilleur. Alors regardez bien ce qui s'est passé avec Israël, parce que ce qui s'est passé avec Israël, c'est aussi ce qui peut se passer dans l'église. Voyez-vous, c'est quand même intéressant, parce que cette histoire du veau d'or paraît curieuse, mais le peuple est convaincu au fond d'eux d'être dans la plan de Dieu. Ils sont convaincus même d'être agréables à Dieu. Vous avez fait attention à la lecture. Ils ont fait une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait une fête en l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont fait des holocaustes. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait toutes ces choses qu'on a l'impression, en tout cas sur le papier, c'est bien, non? Vous êtes d'accord? Sur le papier, c'est bien ce qu'ils font. Mais en tout cas, Dieu va dire non, il s'est corrompu. Vous voyez-vous, il y a quelque chose d'important et qui est plus important pour Dieu. Parce que même dans 1 Samuel, il va le dire 15-22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et, écoutez bien aussi, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le Seigneur préfère l'obéissance. Et à ce moment-là, le peuple, lui, n'a pas été obéissant. Mais il ne s'était pas rendu compte en premier lieu, jusqu'à ce que Moïse vienne, qu'ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand nous sortons ce mot idolâtrie, nous pensons de suite à des choses qui sont visibles. Nous pensons de suite à des choses qui sautent aux yeux, non? Eh oui, c'est comme ça. Souvent, on le dit nous-mêmes, dire oui, il est idolâtre parce qu'il y a telle chose visible dans sa vie. Oui, mais en même temps, nous sommes tous d'accord pour dire oui, s'il y avait un veau d'or ici, ou s'il y avait un veau d'or dans une autre église, on fuit. Non? Merci. Ça va mieux. Pourquoi c'est important? Ça serait visible, ça sauterait aux yeux, mais en même temps, Paul, il est en train d'enseigner en disant que l'idolâtrie, c'est pas forcément aussi quelque chose qui se voit. L'idolâtrie, ça peut être quelque chose que l'on ne voit pas. Parce que l'idolâtrie, elle est liée à quelque chose qui est profond dans le cœur. L'idolâtrie, elle peut venir dans notre cœur. Elle peut naître au fond de notre cœur sans même que l'on ne voie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est dit dans Ézéchiel 14:3, fils de l'homme. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Ils attachent les regards à ceux qui les ont fait tomber dans l'iniquité. Voyez-vous, il est important d'être prudent. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit, non? C'est bien cette personne que j'ai établie sur ma maison qui est fidèle et prudent. Faut être prudent, mes frères et sœurs. Bien évidemment, il l'encourage, il dit, voilà, parce que l'idolâtrie, elle peut être dans la maison de Dieu, mais être complètement invisible. L'idolâtrie peut être dans un lieu sans qu'elle soit visible. Elle peut être à l'église sans qu'elle soit visible. Voyez-vous, c'est quelque chose de tellement important. Parce qu'on peut porter le nom de Dieu. On peut porter le nom d'être chrétien. On peut dire « Je suis enfant de Dieu ». Nous pouvons chanter « Je suis enfant de Dieu » alors que la nature, la raison d'être, le but recherché, c'est pas la sanctification, c'est pas l'obéissance à la parole de Dieu, c'est pas Christ notre rocher, et pourtant nous chantons son nom. Voyez-vous, ça c'est une réalité aujourd'hui. Oui, il y a l'idolâtrie qui peut régner dans l'église. On peut venir à la maison de Dieu, on peut venir à l'église, et attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Hein, parce que Paul ne dit pas aux Corinthiens que c'était le cas chez eux, mais il dit attention, soyez prudents. Oui, on peut venir à la maison de Dieu, mais pas pour Dieu. On peut venir à l'église, chanter le nom de Jésus, sans que Jésus soit au milieu d'eux. Sans que Jésus soit au milieu de nous. Alléluia. C'est important de pouvoir le réaliser parce que eux, ils ont fait une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils ont fait un veau d'or et ils ont fait une fête. Ils ont fait des holocaustes et des sacrifices qui paraissent bons sur le papier, mais ils étaient désagréables à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit. Ils vont périr dans le désert. Et il y a quand même ce mot que Paul laisse. Et que même dans Exode, nous retrouvons, ils se sont levés, ils ont mangé, ils ont bu et ils se sont divertis. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui fait écho, je ne sais pas pour vous, mais moi ça fait écho. Quand j'ai lu ce texte, ça a fait écho dans mon cœur. Le divertissement, quelque chose qui a touché l'Église. Parce que, on peut le dire comme cela, aujourd'hui, l'idolâtrie première dans l'Église, celle qui touche le plus d'églises, c'est le divertissement. Où il y a, et nous le voyons, c'est quand même, je pourrais le dire gros, mais c'est devant nous, l'église est là pour consommer. On vient à l'église pour consommer. Quand on voit ce qui se passe sur Internet, quand on voit ce qui se passe sur l'église, on change d'église, on va d'église en église, on passe du temps à consommer, où la prédication, ce n'est plus une prédication pour qu'on soit encouragé à s'approcher de Dieu, mais c'est un spectacle ou c'est un show. C'est la réalité, hein? C'est la réalité. Et Paul, il est en train de dire, oui, mais c'est déjà une réalité. C'était déjà une réalité, il y a l'idolâtrie qui est là. Mais nous, c'est important, hein? On ne se fait pas une image de Dieu, non. Vous connaissez le premier commandement? Oui, vous le connaissez. Hein? Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force et ton prochain comme toi-même, sauf qu'il est dit, écoute, écoute Israël. C'est ça le premier commandement, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin d'une image de Dieu parce que nous, notre Dieu, il nous parle. Il parle au cœur. Notre Dieu parle, les autres dieux dans le monde, ils parlent pas. Ceux qui se prétendent être des dieux, ils ne parlent pas. C'est des statues. On peut aller louer une statue. On peut, comme on l'a été dit, on peut rentrer dans une église où il y a la croix avec Jésus. Ça parlera pas. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et nous avons un Dieu qui nous parle. Alléluia. Et qui veut encore nous parler ce matin. Donc, oui. Il n'était pas en train de dire aux Corinthiens qu'ils étaient idolâtres, mais il mettait en garde. Ne devenez pas comme quelques-uns d'eux. C'est ce qu'il va dire, ne devenez pas. Oui, et il faut quand même vraiment veiller à cela, parce que ces choses que nous venons très brièvement d'énumérer, c'est une réalité. C'est des choses qui existent et il faut que l'on puisse faire attention à ce que l'on voit. Mais, enfin, on parle de ces choses, ok? Mais franchement, mes frères et sœurs, toutes ces choses, c'est gros. Non? Vous tomberiez, vous, dedans? Vous tomberiez, vous, pour ça? Si vous voyez ces choses-là, qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez? Vous tomberiez si vous vous entendez parler de l'évangile de prospérité? Vous iriez, vous, dans des soirées guérison où c'est pas l'Esprit de Dieu? Vous irez dans des soirées miracles? Non, mais c'est quand même gros devant nous! C'est quand même réel devant nous! Mais nous nous sommes attachés à quoi? Parce que ces choses-là, oui, elles existent. Mais nous, nous sommes attachés à l'évangile authentique. Non? Nous avons soif d'authenticité. Alléluia! C'est important de pouvoir le réaliser. Nous avons soif de ça. Et Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il va le dire d'ailleurs. Parce que si dans la première lettre, il met en lumière certains faits, qu'il y en a certains qui se sont éloignés, il est en train de dire dans la deuxième, il dit, je ne comprends pas. Maintenant, vous acceptez toutes ces choses si facilement. Vous acceptez, regardez, 2 Corinthiens 11, 4, car si quelqu'un vient vers vous pour prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voyez-vous ça? C'est pas notre cas, mes frères et sœurs. C'est gros quand même, ces pièges. On va pas tomber dedans, ça existe, mais nous veillons à cela. Et il va même dire aux Colossiens, au chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Nous sommes là, mes frères et sœurs, pour tous lever la main et dire, mais nous, notre rocher, c'est Jésus. Amen. On est tous d'accord avec ça. Merci, mon frère. C'est tellement important de dire, oui, mais c'est pas mon cas. Nous, nous veillons sur ça. Il faut d'ailleurs, oui, veiller, mais je vais pas me laisser piéger. Je vais pas me laisser piéger par ces choses-là. On pourrait quand même dire, mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont acquises. Non? C'est des choses qu'on connaît. C'est des choses qu'on sait. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que beaucoup d'entre vous, vous avez pris position pour cela. Il nous faut, bien évidemment, veiller, mais bon, ces choses-là, on va pas se faire piéger comme ça. Non? Alléluia, hein? J'avais dit tout le monde dit amen à ce moment-là. Hein? Mais c'est quand même important parce que, regardez ce que dit Paul. Regardez ce que dit Paul. Paul, il dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voyez-vous, ce texte, on le connaît tous. Ce texte, on le cite souvent. Même dans nos conversations, quand il y a un repas avec des frères et sœurs, ou même dans nos familles, on le cite. Mais on a tellement cité ce texte, que moi, je l'ai entendu comme ça pendant des années. J'ai entendu que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Sauf que c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit, c'est pas celui qui est debout, c'est celui qui se croit debout, celui qui se pense debout. Dans une autre version, c'est le mot, c'est lui qui se pense debout. C'est quand même important parce que il faut faire attention à ce qu'il est écrit parce que ça change toute la portée de ce verset. Je suis pas debout. Il faut que je veille. Et ça va nous ramener quand même, je dirais, dans l'humilité. Ça va nous amener à être prudents. Ça va nous amener à ne jamais se sentir supérieur. Parce que je peux tomber aussi. Parce que nous ne serons jamais à l'abri si nous ne sommes pas cachés en Jésus. Ça nous ramène dans l'humilité. Je suis pas debout. Je pense être debout. Et j'aime beaucoup parce que, véritablement, ça nous ramène dans nos rapports les uns et les autres. Avec beaucoup d'humilité. Voyez-vous, dans Romains 12, 3, il est dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voyez-vous, mes frères et sœurs, n'est pas meilleur. Il faut avoir ce cœur où ne pas avoir une trop haute opinion, revêtir ses sentiments modestes. Mais quand bien même nous sommes d'accord, je ne sais pas vous, mais il y en a marre. Il y en a marre de cette guerre qu'il y a dans les églises. Il y en a marre de ces disputes confessionnelles ou de dire ça à telle dénomination. Ainsi, il y en a marre. Ce qu'il nous faut et ce que l'on veut, c'est être sur le rocher Jésus. Alléluia. Et ça nous fatigue, ça détruit même nos cœurs. Et pourtant le Seigneur a dit, mais venez à moi, recentrez-vous sur moi. Et je vous le dis, Dieu est en train de faire une œuvre où beaucoup sont en train de revenir à Jésus de manière sincère. Comme le peuple de Dieu s'est éloigné, Jésus est en train aujourd'hui de rappeler son peuple. Parce que l'église de Christ, le corps de Christ, se trouve dans toutes les dénominations parce que Dieu regarde au cœur. Ça, c'est la réalité. Et des fois, peut-être qu'on a du mal à l'entendre. Mais pourquoi? Parce qu'on a soif de la vérité. On a soif de la parole de Dieu. On a soif simplement de Jésus. Il y a comme, on pourrait le dire, un renouveau. Amen. Mais sans nouveauté. Hein. J'aime bien. C'est un renouveau, oui, mais il n'y a pas de nouveauté. Laisse ta technologie de côté et laisse le Saint-Esprit faire. Amen. Parce que ce renouveau, c'est quoi? Ce renouveau, c'est simplement que Dieu est en train d'appeler son peuple à nous de tendre l'oreille et de pouvoir abandonner ce qu'on fait, abandonner nos idoles, abandonner peut-être nos vies, tout ce qui ne va pas et que l'on sait, et de faire de Jésus notre rocher, de faire de Jésus notre demeure. Amen. Toi, nous encourager à cela, c'est se recentrer sur la parole de Dieu, non? Quand Dieu, Jésus va parler aux églises de l'Apocalypse, il va parler de quoi? Il va parler des problèmes. Certains ont oublié ou ont mis de côté le premier amour. Pourtant, il y avait plein de choses de faites, de bonnes choses de faites. D'autres, ça va être d'autres difficultés, d'autres problèmes. Et on le voit bien quand nous lisons là Apocalypse 1, 2 et 3. On voit que ce n'est pas les mêmes problèmes dans chaque église. Mais pourtant, l'appel, c'est le même. L'appel à être prudent, l'appel à la repentance, l'appel à revenir à Jésus, l'appel à l'endurance et à la persévérance dans ces temps qui sont particulièrement compliqués. Alléluia, l'appel, il est le même. Et il dira dans toutes les églises, vous pourrez relire, que celui qui a des oreilles, écoute ou entende. Mais ce n'est pas parce qu'on écoute qu'on entend, ou ce n'est pas parce qu'on entend qu'on écoute. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alors, je le dis, est-ce qu'on pense être debout par rapport à toutes ces choses que l'on voit autour de nous dans les églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Oui ou non? Oui, on est debout. On est debout. Alléluia. Merci Seigneur. Mais ça nous ramène dans l'humilité. Parce que quand même, ça ne veut pas dire que je ne peux pas tomber. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour l'ennemi de mon âme de me faire tomber. Voyez-vous combien cela est important? Et c'est ce que le Seigneur veut que l'on fasse chacun d'entre nous. C'est une invitation. Dieu nous invite, mes frères et sœurs, à se sonder soi-même. Est-ce qu'on le fait souvent, ça? Est-ce qu'on se sonde soi-même? Vous voyez souvent la paille dans l'œil de votre voisin? Le Seigneur nous invite aussi de temps en temps quand même à regarder la poutre qu'il y a dans notre œil, non? Dis, Seigneur, oui, il y a des pailles, mais Seigneur, est-ce que moi, il n'y a pas quelque chose aussi qui serait un frein? Voyez-vous, dans les temps dans lesquels nous vivons, mes frères et sœurs, le plus important, en premier temps, je dirais plutôt, c'est pas de regarder aux dérives de l'Église ou au ministère qui dérive aussi, c'est de se laisser sonder par la parole de Dieu, c'est de se laisser, je dirais, de se préoccuper d'abord de ma propre marche. Amen. Combien de fois nous avons cligné des yeux là, depuis tout à l'heure? Jésus reviendra en un clin d'œil. En un clin d'œil. Si je ne suis pas prêt, vous, vous en voudriez pas toute votre vie, hein? Ce serait des regrets et qu'on ne pourrait même pas se pardonner. Dit Seigneur, mais pourquoi je suis passé à côté? Donc c'est important de pouvoir justement, je dirais, se laisser sonder en sachant que Jésus va dire, notre Dieu est un Dieu d'amour, Jésus va dire aussi la vérité. Il va dire, si vous êtes tiède, je vous vomirai. C'est une église qui parle, c'est pas au peuple d'Israël qui parle. Hein. Quand ils disent, Seigneur, Seigneur, quand ils disent, on ne t'a pas connu, plutôt Jésus dit, mais je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas, c'est fort, mais on a prophétisé en ton nom, on a chanté en ton nom, on a loué en ton nom, comment tu ne nous connais pas? Je ne vous ai jamais connu, parce que la parole de Dieu dans ce texte-là nous dit que les seuls qui seront dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui ont fait la volonté de mon Père. C'est ce que Jésus dit. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Donc dans 2 Corinthiens 13, 5, il va quand même continuer en disant « Examinez-vous vous-même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Voyez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important de faire de temps en temps un petit inventaire. Très important de temps en temps de faire un peu le tri, de dire « Seigneur, est-ce que je suis toujours à toi ? Parce que peut-être que je peux m'égarer. » Voyez-vous, ça serait tellement dommage, après tant d'efforts, tant de persévérance, mes frères et sœurs, tant de combats, tant de difficultés, de passer à côté. Non ? Ça serait tellement dommage. Et je me posais cette question. Et c'est surtout sur cela, sur le matin, sur lequel j'aimerais que l'on partage, c'est comment, nous qui sommes, et on peut le dire, affermis dans la foi, nous qui sommes affermis dans la parole de Dieu, Nous qui supportons bien quand même, je dirais la viande, la nourriture consistante de Jésus, où on supporte bien quand Jésus même nous reprend dans notre quotidien. Qu'est-ce qui pourrait nous faire tomber? Qu'est-ce qui pourrait nous faire en sorte que l'on s'écarte sans qu'on s'en rende compte? Poser cette question, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui pourrait nous amener loin de toi, vu qu'on est ferme? Où est le piège? Est-ce qu'il y a un piège? La Bible dit quand même, dans Matthieu 24, voyez-vous, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il dit quand même, il va y avoir des temps tellement particuliers, tellement forts au niveau des turbulences, si je peux parler ainsi, que Dieu va venir abréger ces temps. Il va venir les abréger, parce que sinon personne ne serait sauvé, et c'est quand même quelque chose qui nous parle. Alors, je vous pose cette question. Qu'est-ce qui pourrait nous éloigner de Dieu, sans qu'on s'en rende compte? En ayant appui avec la parole de Dieu, bien évidemment. Hein. La légitimité. La légitimité est un piège aujourd'hui pour ceux qui sont enfermés dans la voie de Dieu. Pour ceux qui sont enfermés, je dirais, dans la foi. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je vais bien évidemment essayer d'expliquer ce que j'essaye de vous dire, parce que la légitimité dans le sens de certains choix que l'on va faire pour justifier. Voyez-vous, on passe notre temps à se justifier. Pas vrai, les maris? Vous vous justifiez, hein? Non? Souvent, votre épouse vous demande, moi, mon épouse me demande, alors, tu allais acheter le pain? Oui, comment ça s'est passé? Qui y avait? Faut tout justifier. Faut que je raconte tous les détails. Nous, on n'est pas comme ça, on a acheté le pain, on s'en fiche du reste. Mais, elle, c'est important de savoir s'il s'est pas passé quelque chose. Donc, c'est important, parce qu'on passe notre temps à justifier. Peut-être qu'avec le Seigneur, on est comme ça. Ce sont des raisons valables. La légitimité, ce sont des choses qui sont valables. Je vais vous dire, il y a des choses qui sont valables, qui nous éloignent de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus, je disais tout à l'heure, si ces temps n'étaient pas abrégés, ça c'est dans Matthieu 24. Mais dans Matthieu 24, Jésus va quand même prendre un exemple, il va dire, en comparaison à la génération de Lot et à la génération aussi de Noé. Vous connaissez bien ce texte où il est dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint les fit tous périr. Quand arriva le temps de Lot, arriva pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Alors, c'est vrai que quand on pense à ces générations, nous l'avons vu avec la jeunesse il n'y a pas si longtemps que ça, c'est bien sûr, ça nous fait penser à la perversité de ces générations, au fait qu'elles ont mis un comble au péché, au fait qu'il y a eu un jugement qui est tombé, que ce soit le déluge ou que ce soit le feu qui est tombé du ciel. On pense, et bien évidemment, à cela, mais en même temps, est-ce que Jésus appuie là? Sur ça. Est-ce qu'il appuie quand il donne cet exemple-là en disant, voyez-vous ce qui va se passer à la génération, ça sera pareil et je vais revenir à ce même moment. Est-ce qu'il donne l'exemple de la perversité ou du fait que ces générations ont mis le comble au péché? Voyez-vous, Jésus va donner des exemples qui sont complètement légitimes. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais se marier, c'est quand même de Dieu, non? Oui? Manger, c'est quand même de Dieu. Boire, c'est quand même de Dieu. Bâtir, il faut bien qu'on ait un toit aussi. Jésus est en train de donner des exemples qui sont légitimes. Ce sont des choses que Dieu veut. Ce sont des choses que Dieu a établies même pour nous. Le mariage, c'est Dieu qui l'a établi. Il est en train de donner des exemples qui sont du quotidien, je dirais d'ordre normal, qui sont complètement légitimes. Voyez-vous, quand Jésus donne cela, c'est pas que le manger et le boire est un problème. Il peut être un problème, oui ou non? Et oui, parce qu'il y a des excès de table. Mais ce n'est pas le problème que le Seigneur veut révéler là, en disant il faut pas manger, il faut pas boire, parce que sinon tu vas louper mon retour. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Mais il est en train de dire qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui, que ces choses ont complètement accaparé l'esprit de ces générations. Et il faut faire attention, parce que il faut pas que votre esprit soit complètement accaparé. Le frère, tout à l'heure, lisait, il disait, il faut être un bon soldat de Christ, faut pas s'encombrer des affaires de la vie, c'est cela que ça rejoint. Parce qu'au final, aujourd'hui, le but suprême de l'homme, c'est quoi?
c'est de construire sa maison, c'est de se marier. C'est étonnant d'ailleurs qu'une fois qu'ils sont mariés, ils ont toujours le vide dans leur cœur. Hein. Une fois qu'ils ont bâti leur maison, ils en veulent une plus grande. Une fois qu'ils ont une maison plus grande, ils veulent plus de choses dans la maison. Mais le cœur, il est toujours vide. Voyez-vous, c'est devenu un but suprême et c'est une réalité pour nous parce que notre esprit peut tellement être accaparé par des choses qui sont légitimes. Il y a des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu et ce sont des choses qui sont légitimes. Voyez-vous, ça m'a fait penser à la parabole des conviés pour ceux qui connaissent. La parabole qui se trouve dans Luc 14, 18 où Jésus va parler, il va dire il y a un homme qui va donner un grand souper. Et il invita beaucoup de monde, il les dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je puis aller. Voyez-vous, les exemples qui sont donnés sont quand même des exemples légitimes. Non. Merci. Ils sont légitimes. Et ce n'est pas qu'ils sont en train de refuser l'invitation. Ce n'est pas un refus. Ils ne refusent pas l'invitation. Mais ils s'excusent. Ils disent, oui, mais on aurait bien voulu, mais là, ça tombe mal. On aurait bien voulu, mais là, je ne peux pas maintenant. J'ai autre chose à faire. Ils vont exprimer des regrets. Et par cette excuse, ils vont justifier quoi ? Ils vont justifier un impératif. Ils vont essayer de justifier quelque chose. Qui est dire, mais Seigneur, tu comprends quand même. Ah, mais mes 5 paires de bœufs. Faut pas que je me fasse arnaquer, non? Non, il faut que je les essaye avant. Et si le bœuf, il est malade? Je veux pas acheter un bœuf. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ils disent, non, je peux pas, là. Et c'est valable. Ce sont des raisons, mes frères et sœurs, qui sont valables. Ça excuse, c'est une excuse, voilà. Mais le Seigneur, vous connaissez très bien ce qu'il dira. Ils se sont excusés, mais ils ont pas, du coup, mangé au repas. Voyez-vous? C'est quand même important de pouvoir comprendre cela parce qu'on peut complètement être accaparé par toutes ces choses. Dans notre quotidien, ça peut être un ennemi. Notre quotidien, le rythme de nos vies, ça peut être un véritable souci, ça peut devenir très pesant, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement important. Et oui. Mais il ne faut pas oublier les priorités. Et en tant que chrétien, il nous faut justement veiller à ce que ces soucis-là, ils ne nous gagnent pas. Amen. Il faut faire attention, parce que quand on reçoit la parole de Dieu, il faut la recevoir où ? Dans la bonne terre. Mais ce n'est pas qu'au début. Hein. Souvent, cette parabole, on la croit que c'est au début, ils reçoivent la parole dans la bonne terre. Oui, mais je reçois la parole tous les jours. Tous les jours, Dieu me parle. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous, on n'y prend point garde. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais nous, on veut prendre la parole, mais il ne faut pas qu'elle tombe parmi les épines. Regardez, Marc 18, 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole plutôt, et la rendent infructueuse. Voyez-vous, on est comme ça. On a des excuses. On peut prier, mais des fois, on s'excuse auprès de Dieu. Dit, il y a des choses que tu comprendras, Seigneur. Tu comprends, Seigneur. Et je ne peux pas, je suis fatigué, j'ai trop de travail. Mon travail me prend trop de temps. Je suis trop accaparé par le souci, Seigneur. J'ai trop de soucis de financiers. Seigneur, j'ai besoin même de décompresser un peu. Faut que je souffle. Seigneur, j'ai trop de soucis, trop de complications, trop de mauvaises nouvelles. À l'église, Seigneur, à l'église. Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, parce que mes enfants, ils sont malades. Il y a ceci, il y a cela, je suis fatigué parce qu'il y a le sport, il faut que je les amène. Et j'ai un train de vie, Seigneur, j'arrive plus à gérer. Mais tu comprendras, Seigneur, parce que si je fais pas ça, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère, non? Tu comprendras, Seigneur. Combien, Seigneur, c'est dur. Moi, j'ai noté là. J'ai des enfants en bas âge, mais là, quand il y a les vacances, c'est plus dur à gérer. Hein. Et oui, parce qu'il faut trouver les grands-parents pour savoir. Toutes ces choses, ça peut nous accaparer. Toutes ces choses, ça peut nous éloigner de Dieu sans qu'on s'en rende compte. Et Jésus est en train de dire, mais voyez ces générations, mangeaient, elles buvaient, elles se mariaient, elles se préoccupaient plus des signes évidents qu'il y avait. Elle était tellement accaparée que 120 ans, Noé, il a prêché. Elle était tellement accaparée que les anges sont venus et qui ont annoncé un jugement de Dieu. Que quelques-uns qui ont cru. Et encore, au début, ils se moquaient, ils disaient, mais t'es pas sérieux, l'autre, on pense que c'est une plaisanterie. Voyez-vous, ça m'a fait penser également, cette situation, à Marie qui avait choisi la bonne part. Vous connaissez très bien cette histoire, mes frères et sœurs. Hein? Marie qui avait choisi la bonne part. Et un jour, les disciples, ils étaient ensemble avec Jésus, et ils ont cherché une maison, ils ont cherché un toit. Et bien sûr, on sait que Marthe et Marie, c'était des amis de Jésus. Ils aimaient beaucoup Jésus. Et Marthe, elle est complètement dévouée. Parce qu'elle n'a pas attendu, elle les a invités à la maison. Elle les a invités même pour rester pour dormir. Et elle, ce qui est important, c'est quoi? C'est un bon repas. C'est un bon accueil. C'est, je dirais, de préparer les lits. C'est d'organiser bien la soirée comme il faut, voyez-vous? Souvent, nos épouses, elles sont comme ça. Hein? Faut que tout soit nickel, parfait, quand on reçoit du monde. Hein? Eh bien, Marthe, c'était, je dirais, le même état de cœur. Elle voulait tellement bien faire pour Jésus. Sauf que on a l'impression dans cette histoire que quand Jésus arrive, tout n'est pas encore prêt. Tout n'est pas parfait. Le repas n'est pas fini. Les lits ne sont pas encore prêts. Et elle va s'affairer dans ses tâches ménagères, comme il est dit, ses tâches domestiques quotidiennes. Vous relirez la parole de Dieu. Mais là, il y a quelque chose, voyez-vous, qui... Ah, ça l'agace. Il y a quelque chose qui, ça l'énerve. Il y a quelque chose qu'elle comprend pas. C'est Marie. Voyez, c'est sa sœur. Elle comprend pas du tout Marie. Elle se dit, mais moi, je suis en train de me démener pour essayer de que tout le monde passe une bonne soirée. Je suis en train de me démener pour que Jésus se sente bien accueilli. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Elle écoute la parole de Dieu. Elle écoute Jésus annoncer les merveilles du ciel. C'est pas possible. Voyez-vous, pour bien faire comprendre à sa sœur, elle va vouloir aller chercher le soutien de Jésus lui-même. Non? Souvent, nous raisonnons comme ça, mes frères et sœurs, non? Va lui dire toi, parce que si moi je lui dis, il ne comprend pas. Non? Ça arrive? Si tu lui dis toi, ça passera mieux. Et elle s'est dit quoi dans son cœur? Elle s'est dit, mais si c'est Jésus qui lui dit, peut-être que ça passera mieux. Et oui, regardez ce qu'il est dit. Luc 10, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle est en train de dire au Seigneur Jésus, Seigneur, est-ce que tu peux recadrer Marie? Ça serait bien quand même que tu lui dises qu'elle n'a pas le sens des priorités. Ça serait bien que tu lui dises qu'au mieux d'écouter, elle ferait mieux de m'aider à servir. Seigneur, il n'y a que toi qui peux lui faire comprendre quelque chose. Voyez-vous, c'est ce qu'elle dit. Marie, tu n'as pas le sens des priorités. Et même, elle lui en veut à ce moment-là. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Jésus va dire? 41, verset 42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et la version Darby dit quand même, elle est parlante, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Mais il n'est besoin que d'une seule chose. Voyez-vous, Marthe et Marie, toutes les deux, elles sont super heureuses de recevoir Jésus. Elles sont dévouées dans leur cœur à recevoir Jésus et les disciples. Et c'est quelque chose pour elles qui est important parce qu'elle veut que tout, pour Marthe en tout cas, elle veut que tout soit parfait. Et même quand Jésus est là, c'est un honneur pour elle. Et voilà. Qu'elle est là, elle est dans la maison, sa raison d'être, je dirais, c'est Jésus, mais elle n'est pas avec Jésus. Combien d'entre nous, on aime tellement venir à l'église, on aime tellement la communion fraternelle, on aime tellement toutes ces choses, on est dévoué pour servir à l'église, on est dévoué pour rendre service les uns aux autres, même à l'église, on veut servir le Seigneur, mais combien de temps au quotidien on passe à côté de Jésus? Alors que Jésus, là, on fait tellement de choses pour toi. Et je passe à côté de l'essentiel. Voyez-vous, mes frères et sœurs, des fois, il faut s'arrêter. Des fois, il faut s'arrêter. C'est combien important. Je vais vous donner une image. Je ne l'ai pas notée, mais je vais vous la donner. Quand vous invitez quelqu'un chez vous à un repas, vous ne le laissez pas seul à table. Non? Mes sœurs, vous ne continuez pas à faire le ménage. Vous continuez pas à faire les soins domestiques, comme il est dit. Mes frères, vous n'allez pas couper du bois. Vous n'allez pas laver la voiture. Qu'est-ce que diraient les personnes qui sont à table? Ils nous invitaient, mais pourquoi? Ils ne sont pas avec nous. Combien de fois on peut passer en disant, Seigneur, tu m'as raison de vivre. Seigneur, je suis tellement là, je veux être avec toi, mais on passe à côté. On ne s'arrête pas pour être avec Jésus. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir prendre du temps dans sa présence. Il n'y en a qu'une, Jésus dira, qui soit vraiment nécessaire. La seule chose qui est vraiment nécessaire, Marthe, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est d'être auprès de la parole de Dieu. C'est la communion. Et Jésus, il honore. Jésus, il honore. Alléluia. Elle n'avait pas choisi la bonne part malgré qu'elle était zélée. Malgré qu'elle était zélée et qu'elle avait un cœur, elle ne prend pas le temps avec Jésus. Voyez-vous, dans le monde, j'entends beaucoup dire, et c'est à cause de la société, à cause des temps dans lesquels nous vivons, combien j'entends dire, moi je vis pour mes enfants, moi je vis pour ma famille, moi je vis pour cela, moi je vis pour cela. Mais je me rendis compte d'une chose, c'est que beaucoup d'enfants sont tristes parce que si les parents ils disent « Ah, moi je vis pour mes enfants », les parents disent « Oui, mais moi mon père, je ne le vois jamais. » Oui, mais moi, ma mère, je la vois jamais. Elle prend jamais du temps avec moi. Prend jamais du temps pour faire un dessin. Prend jamais du temps pour être avec moi. Et pourtant, on fait tout pour que nos enfants soient heureux, non? Combien il est important de revenir à l'essentiel. De dire, Seigneur, j'arrête tout. J'ai vu beaucoup de choses, mais je veux m'arrêter. Et prendre du temps avec toi. Parce que tu es vraiment ma nature. Tu es vraiment ma raison de vivre. Alléluia. Voyez-vous, Marthe, c'est pas qu'elle n'avait pas le temps, c'est qu'elle prenait pas le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. À moins que vous ayez une solution pour allonger les jours. Passer à 26 heures, peut-être que ça permettrait que je prie un peu plus. Non ? Mais c'est pas le cas, hein ? On peut pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On s'arrête. Elle dit, Seigneur, pardon, parce que tu es là et je veux passer du temps avec toi. Alléluia ! Voyez-vous, mes frères et sœurs, je vais finir juste sur ça, parce que c'est quand même important. Vous connaissez la parabole des 10 vierges, tous. Alors c'est quand même curieux, parce que il y en avait qui étaient sages et d'autres qui étaient folles. Dans ma jeunesse, je pensais que celles qui étaient sages, parce qu'elles étaient juste un petit peu assoupies, voyez-vous ? Un petit peu. Les autres, elles dormaient profondément. Hein, les folles, elles ont dormi. Non. Sauf que la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Pourquoi certaines étaient sages et pourquoi d'autres disent qu'elles étaient folles? Pourquoi? Parce que certaines avaient pris des précautions. Elles avaient de l'huile en réserve. Mais les 10, elles se sont endormies. Et encore là, ça nous ramène dans l'humilité. Tu sais, Seigneur, pourquoi les 10, elles se sont endormies? Parce que l'époux tardait. Pourquoi Jésus tarde? Parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Mais c'est dur de lutter dans ces temps où on a tellement de facilité à s'assoupir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir de l'huile en réserve. Amen. Avoir de l'huile en réserve. Voyez-vous, je travaille dans un magasin et il y a une crainte aujourd'hui, c'est l'huile de tournesol. Tout le monde se jette sur l'huile de tournesol. Il n'y a plus d'huile de tournesol, on est obligé de dire aux clients, non, c'est un par famille, c'est bon. Ils ont peur de manquer d'huile de tournesol. Nous, les chrétiens, on ne doit pas avoir peur de manquer d'huile de tournesol, parce que si Dieu veut qu'il n'y ait plus d'huile de tournesol, il n'y en aura plus. Si Dieu veut qu'il y en ait, il y en aura. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas manquer, c'est de l'huile de l'esprit. C'est de la communion avec Dieu. Ça, il ne faut pas manquer, mes frères et sœurs, dans ces temps où Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Elles se sont endormies, mais Jésus est revenu. D'un coup, il est arrivé et elles se sont réveillées. Prêtez-nous un peu d'huile. Non, on ne peut pas, on n'a pas le temps de vous prêter de l'huile. Il faut que vous alliez en acheter. Pour aller d'église en église, le Seigneur Jésus sera revenu, la porte de la grâce sera fermée. Il faut qu'on ait de l'huile en réserve. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Combien le Seigneur veut véritablement nous amener à vivre un réveil. Mais ce réveil, mes frères et sœurs, ce ne sera pas forcément un réveil. Il y aura des prodiges, des miracles par milliers, comme on a pu en voir. Mais déjà, un tronc commun au réveil, c'est la prière, la repentance, l'humiliation. Ça, c'est le tronc commun d'un réveil. Il ne veut pas nous amener forcément à vivre des choses, quoi qu'on en vit déjà. On vit des miracles, on vit des belles choses. Mais c'est un réveil de prise de conscience dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est un réveil de sanctification. C'est un réveil de purification. Et de dire, j'arrête tout, Seigneur, je veux avoir de l'huile en réserve. Cachez votre joie.
Voyez-vous ? Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a tellement d'incompréhension, mes frères et sœurs. Des choses qu'on ne peut pas expliquer qui se passent même dans la maison de Dieu. On ne peut pas expliquer ce qui se passe quand on voit le monde, dans la tournure dans le monde, laquelle tournure le monde prend. On ne peut pas expliquer qu'il y a encore des guerres. On ne peut pas expliquer toutes ces choses. Il y a tellement de choses qui nous dépassent, qu'on ne contrôle pas et qu'on ne contrôlera jamais. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit ? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'irai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous ce que l'Esprit dit aux églises ? Mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est de souper avec Jésus, de l'inviter chez nous. Ça parle de communion, hein, bien évidemment. Ça parle de cœur à cœur. Est-ce qu'on va trouver des excuses ? Parce que ça fait penser à la parabole, bien évidemment, du convié. Seigneur, je voudrais répondre à l'invitation, mais là, j'ai trop de choses. Seigneur, j'ai trop de soucis. À l'image peut-être de Marthe, on est dévoué. Seigneur, je suis tellement dévoué pour toi que je passe à côté de l'essentiel. Je passe à côté d'être avec toi. Fait pour toi, mais je suis pas vraiment là. On répond à quoi à l'appel de Jésus ? Parce que l'appel de Jésus nous est laissé, mes frères et sœurs. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il entre, et je souperai chez lui. Alléluia. Seigneur Jésus.